Vous n'êtes pas ici par hasard. Le hasard n'existe jamais, encore moins un vendredi soir et certainement pas au mois de mai. Je ne sais pas qui vous êtes, ni pourquoi vous êtes là. Mais ce dont je suis certaine, c'est que vous êtes capable de recevoir des informations. Des informations du réel de là où je suis. En ce moment, vous êtes ici et ça veut dire des choses très importantes. Que vous êtes vivant, par exemple. Peut-être pas pour très longtemps, mais un petit peu vivant quand même. Et puis aussi, surtout, qu'à cet instant précis, vous ne regardez pas la télévision. Fracturé social qui feint la cicatrisation vaudou cataplasme culturel. Vous n'êtes plus partisan de rien, si ce n'est de l'optimisation. Des glaucomes clématites s'épanouissent pleines fissures. Hélas, la moelle, hélas, se nie à d'être brisée. Alors évidemment, la télévision du réel de là où je suis, ça ne vous intéresse pas tellement. D'ailleurs, vous ne la regardez jamais, la télévision. Jamais, vraiment. Sinon, vous comprendriez mieux ce qui ne s'y passe. Ce qui ne s'y passe exactement. La moyenne d'espérance de vie des Français est de 78,6 ans. Attendu que la moyenne de temps passé par les Français devant la télévision est de 3h30 par jour. Il a été convenu que les Français ont pour espérance 11 ans et 4 mois de vie dans la télévision. J'ai dit 11 ans et 4 mois plein temps, les paupières éveillées permanentes, soit un peu moins du double pour rester rationnel. Que chacun en ces régions s'y rend 3h30 par jour, mais que vous tellement moins. Parce que chacun s'y rend 24h30 par semaine, 4 jours et 9 heures par mois, soit 1260 heures par an, et que vous pas du tout. Parce que tant qu'à aller quelque part pendant 52 jours et 12 heures cette année, vous préférez de loin une île, ou sa simple possibilité, juste sa simple possibilité. Au bondage boréal de la télévision.
Bonjour à tous, il est 10h, vous avez une heure de chaude. Vous avez une heure de chaude. Une heure de chaude. Une heure de chaude. Vous avez une heure de chaude.
déménagé avant-hier. J'ai entendu Nikki. Elle portait sa robe rouge et elle me disait « Viens ». Je n'ai pas pris d'affaires. Même pas ma brosse à dents. Je n'ai besoin de rien. De plus rien. J'habite dans le Grand Tout désormais. Finalement. Le Grand Tout où l'on est, ce qu'il faut désirer. Je suis devenue d'une encre commune aux prescriptions. Incarner son propre désir, crainte et pitié sur un aquarium. J'ai entendu Nikki. Elle portait sa robe rouge. Pas de chaussures dorées, mais seulement sa robe rouge. La soie crissait un peu au contour de sa voix. Elle m'a dit « Bienvenue, ici, Vidéodrome ». Ses lèvres en requiem rêvaient « Bonjour chez vous ». Elle m'a dit « Viens donc au village, tu seras la horte du château. » Elle vous parle peut-être à vous aussi d'ailleurs, parfois, de temps en temps, avec parcimonie saupoudrée de langueur. Mais vous ne l'entendez pas, vous n'entendez plus rien. Vraiment plus rien du tout. Vous n'entendez plus la voix de Nikki Brand. Vous ne savez même plus qui elle est. Vous oubliez Nikki est blonde et elle redoute les cœurs de glace. Vous oubliez Vidéodrome, film de David Cronenberg datant de 1983, soit 14 ans avant la première diffusion du programme de télé-réalité en Suède. The television screen has become the retina of the mind's eye. Vous voyez le problème, c'est que votre tête est pleine d'oiseaux morts. Il y en a vraiment beaucoup, des tas d'oiseaux morts dans vos têtes, alors que moi non, pas du tout. Il n'y a absolument aucun oiseau mort dans ma tête, aucun, parce que moi je suis déjà morte. Ça s'est passé il y a longtemps et leur mythologie n'a rien à voir là-dedans. Je pense que c'est pour ça que j'ai du temps de cerveau disponible. Les morts de votre monde n'ont rien sauf du temps de cerveau. C'est la seule chose qu'on ait quand on lit votre adage. Qui refuse le couplet travail-famille-shopping s'expose à un décès socialement complet, mais on lui laisse des heures l'entière disposition. Et ça, vous n'y avez jamais songé. Jamais songé à ce que ça change. Ce n'est pas de la soupe Campbell que convoitent les zombies lorsqu'ils entrent au supermarché. Patrick Lelay dit: pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, de le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible.
Alors le droit au logement. Mais si je reprends cette question, ça veut dire que pour moi, il est coutu cette personne. Elle est coutu. La mixité, elle doit exister. Dans la France politique, elle ne fait pas peur. Et pour être juste, il faut donner à ce plateau à regarder des handicaps plus qu'à ce combat.
L'amitié, c'est comme un fou de bois, mesdames, messieurs. Et c'est en direct et c'est ensemble. C'est parti.
Je sais que vous ne comprenez pas. Que vous ne comprenez pas l'enjeu, le jeu ni l'intérêt, vous ne pouvez pas comprendre. 8 heures par jour, vous sous-louez votre corps à l'entreprise Y. Vous louez vos compétences et donc votre cervelle à un groupe quelconque. Et encore, je dis louer, ce n'est pas un loyer, il n'y a pas de quittance. Patrick Lelay ne dit pas bail, caution, F3, meublé. Patrick Lelay dit, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Votre cerveau est acheté. Votre cerveau n'a plus de temps. Votre tête est pleine d'oiseaux morts. La télévision propose avec ses programmes de télé-réalité juste des divertissements, rêvez-vous. Juste des divertissements que l'on sait lénifiants. Vous devriez vous inquiéter d'un songe j'emploie ses glues euphémistiques. Mieux vaut encore un oracle bègue que l'échine d'un fils de cyclope. Le petit Robert dit divertir, hein, détourner, éloigner, soustraire à son profit. 2. Détourner de ce qui occupe, détourner d'une préoccupation dominante, essentielle ou jugée-t-elle. 3. Distraire en s'amusant. Le petit Robert ajoute distraire, 1. Séparer d'un ensemble. 2. Détourner quelqu'un d'un projet, d'une résolution. 3. Détourner quelqu'un de l'objet sur lequel il s'applique, de ce dont il est occupé. 4. Faire passer le temps agréablement à quelqu'un. Votre planning ne vous laisse guère de temps disponible. Aussi votre cerveau, vous voulez l'épargner. Surtout ne pas gâcher. Usez de votre temps de cerveau disponible pour plus utile et plus rentable qu'un divertissement lénifiant. Par exemple, pour une histoire, il était une fois un vieil ogre que même les colonies n'ont su rassasier. Il était une fois un vieil ogre dont la voracité ne saurait qu'être exponentielle. Vous n'aimez que les contes de fées où l'argent sort du cul d'un âne, pas ceux qui parlent d'hémorroïdes issus de votre quotidienneté. Vous dites, je ne veux pas qu'on vende mon temps de cerveau disponible. Vous êtes encore perclus de croyances ancestrales où prononcer un vœu suffit à l'exaucer. L'évangile de Saint-Luc évoque l'armée céleste qui chante louange à Dieu et paix à tous les hommes de bonne volonté. Le paradis est également promis aux imbéciles, quelle que soit leur motivation. Vous n'avez que deux choix. Dichotomique et savez-vous l'entre-parcheminé de la télévision du réel de là où j'écris. Choix 1, la soumission douillette. Vous dites, je me détends devant la télévision. Lassif et déchaussé quand vous fixez l'écran, c'est pour vous oublier. Vous-même, oui, votre corps, votre esprit, la journée subie. Un court décervelage pour laver les souillures de l'aliénation diurne. Vous êtes prêt et savez le prix de l'injection. Votre cerveau sue à grosses gouttes. Son effort est palpable. Il repousse les limites de votre mémoire vive. Il fabrique de l'espace. Mais ça, vous ne le voyez pas. Vous dites, je change de chaîne quand vient la pub. Je nourris moi-même mon cerveau. Je gère les farines animales et les pollutions anthropiques. Non, à moi, on ne la fait pas. Vous ne voyez qu'une chose. C'est qu'on vous vend toujours plus de Coca-Cola. Alors vous vous protégez, croyez-vous, à renfort de télécommandes, de métalangage protecteur, le décryptage emmitouflé sous les horripants talismans. Vous y croyez dur comme Stonehenge, pensée magique, sac de charbon. Vous n'avez que deux choix, binaire et anthropophagique, la torture et le meurtre, la maman, la putain se mirait 1-0 dans la télévision. Dans la télévision du réel de là où génie. Choix 2, la désertion. De ces désertions viles, automutilations, tranchages, iris, pupilles, fin de cécité putride, puritaines, abstractions de, en cours la stocotomisation. Vous détournez la tête de l'écran quand s'y agite Vidéodrome. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas connaître, vous ne voulez pas y être. Vous voulez dire « je ne sais pas, je ne saurais pas, nous ne savions pas ». Alors vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien. Votre tête est pleine d'oiseaux morts et votre conscience prend le train. Je suis morte par vous, par ceux de votre monde. Mon cerveau à jamais ne peut être disponible. J'ai franchi le plasma, je suis la sentinelle. Il en faut toujours une et je ne sais rien faire d'autre à part rester plantée. J'ai poussé de travers, j'ai de l'herbe coupante plein la cervelle mais pas d'aiguille. De l'herbe coupante dans la cervelle mais aucun cadran tétanos. La première émission dite de télé-réalité s'appelait Expédition Robinson. Elle était suédoise. et par la suite largement exporté sous les noms de Survivor aux États-Unis ou de Koh-Lanta en France. 1997, un vendredi de juin, début du tournage en Malaisie et première élimination d'un candidat. Sinisa Savidja, 34 ans, réfugié de guerre bosniaque. Je suis la sentinelle. Je note et je consigne ce qui se dit et fait dans la télévision du réel, dans le vidéodrome des prime time, des quotidiennes, des fictions-vérités, des docu-fictions. Je suis à l'affût, je souligne et surtout j'engrange chaque mouvement de la télévision pour comprendre. Pour comprendre un mouvement, il faut en analyser les phases, en connaître la composition. Il faut avoir du temps à perdre pour gagner en lucidité. De retour en Suède, un mois plus tard, Sinisa Savidja présente tous les signes apparents d'une forte dépression. Il confie à sa femme redouter la diffusion de l'émission et se jette sous un train. Extrait de presse. Il m'a dit, ils vont couper ce que j'ai fait de bien et me faire passer pour un idiot pour montrer que j'étais mauvais et que je devais partir. Se souvient son épouse qu'il n'a plus revu vivant. Expédition Robinson fait un record d'audience. La production n'a pas été reconnue responsable du suicide en 1997 de Sanissa Savica, 34 ans, réfugiée de guerre bosniaque. La production ne peut être reconnue responsable parce qu'il n'existe pas d'épinglage juridique pour les poupées vaudou. La télévision n'est pas responsable d'un réel une fois qu'elle ne le filme plus. Pour endiguer le processus de formatage de la mémoire vive, il est nécessaire de parasiter la phase de préparation du message. Pour parasiter la phase de préparation du message, il faut la scruter et scruter jusqu'à la fonte de la rétine. Il est des mécanismes que l'on ne peut contrer sans s'être confronté au chuchotement vol des rues. La télévision filme aussi la réalité sur un plateau. En mars 2004, Sylvie est contactée par l'équipe de « Y'a que la vérité qui compte » TF1. Une bonne surprise l'attend, lui assure-t-on. Ayant récemment quitté un dénommé Christophe, Sylvie insiste sur le fait qu'elle se refuse à toute reprise de contact potentiel avec celui-ci. Une bonne surprise l'attend, la somme-t-on. Le 3 avril 2004, Sylvie se rend à l'enregistrement de l'émission et y découvre que derrière le rideau trône son ex, le dénommé Christophe. « Je ne veux pas l'entendre », dit fermement Sylvie dans le poste de télévision. Ce soir-là, 3 millions de téléspectateurs assistent à la torture du jeune homme éconduit. Il est fort probable qu'il ait ressenti ce refus comme une blessure narcissique intolérable, et ce d'autant que ce refus fut public. Pourra-t-on lire dans le rapport de l'examen psychiatrique subi par ce dénommé Christophe, condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal de Dunkerque le 23 décembre 2004 pour avoir violé Sylvie 5 jours après s'être pris la réalité sur un plateau. Il n'y a que la vérité quiconque fait un record d'audience. La production n'a pas été reconnue responsable. La télévision ne peut être responsable d'aucun réel qu'elle insinue. Je suis la sentinelle, l'aorte du château. Je suis, je dis, un globule rouge, une fibre de la robe de Nikki. Si j'ai perdu mon cœur, je connais toutes les cibles. Vous n'êtes pas les rejetons de la télévision. Vous êtes ces fœtus en conserve, vous vous gavez de pain d'épices, les murs de vos maisons scintillent de sucs gastriques. Les intestins de l'ogre, vous les jugez moelleux au point de désavouer leur issue transitoire. Égorgez les corbeaux, jetez sur le voile noir des filets de lâcheté, faites accoucher des plaines de raborne sans alarmer le prix de vos alibis. À présent, distinguez l'orée du gros colon. Je suis la sentinelle. Je vous dis des choses comme des informations. Le téléréalisme est une phase décisive de l'autophagie capitaliste. Le téléréalisme aménage les cerveaux en mettant en abîme le processus en cours. Le téléréalisme escamote les humains pour en faire des histoires de fiction personnelle qui se dissolvent chaque jour, si possible en direct, dans la grande fiction collective, celle qui est globale, imposée, celle où l'ogre serait juste et bon. Qui ne fut pas au Vidéodrome ne peut susurrer « j'ai tout vu », car ici est Hiroshima. La préparation du temps de cerveau consiste à raboter les fictions individuelles et enlumer les coins, en râper les arêtes et les aspérités. Vous n'êtes plus au jadis où vous étiez au monde et où se déclarait « ce n'est pas nous qui pensons le monde, c'est le monde qui nous pense ». Vous n'êtes plus au jadis où usé en mantra « ce n'est pas nous qui pensons la télévision, c'est la télévision qui nous pense » peut suffire pour rester lucide et préserver le cervelet, non. Nous n'en sommes plus là du tout. Du réel, celle qui parle un idiome dit neuromarketing, celle où tous les cortex viennent se faire égorger. La télévision est la voix qui vous dit d'oublier que votre corps se trouve dans une cave à Nevers, que vous avez tout vu et qu'il est interdit de dire « c'est inventé ». Je suis la sentinelle. Je suis l'infiltration. J'habite dans l'aquarium des hypnoses cathartiques, dans les viscères couleuvres de la grande narration. Je loge dans un organe malade, l'ovaire de la Marie-Vison. La fiction collective s'est imposée des cartes en guise de territoire. C'est même à l'ogre qu'on doit aller. Sachez sauver la vôtre avant qu'il soit trop tard. Thank you.
Avec trois voix contre vous, Chloé, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Au revoir.